Voilà.
Yeah. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent. Réduire les inégalités, une exigence écologique et sociale. C'est le programme d'un colloque organisé par la revue Projet avec la participation d'une quinzaine d'associations qui se termine aujourd'hui à Paris. Alors certes, lutter contre les inégalités est le leitmotiv de bien des mobilisations. Normal, me direz-vous, tant les inégalités de salaire, de patrimoine, d'accès aux services essentiels comme la santé et l'éducation ont augmenté ces dernières années. Mais la finitude de notre planète oblige à renouveler la réflexion. Aujourd'hui, on ne peut plus opposer les enjeux sociaux et environnementaux car ils représentent les deux faces d'une même pièce. Et oui, les tensions environnementales renforcent les inégalités sociales. Un comble quand on sait que les personnes les plus vulnérables sont celles qui contribuent le moins à la dégradation de notre planète.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jean Mercard.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Projet. Alors, la revue Projet a été créée en 1907 par des jésuites, c'est ça ?
Tout à fait. C'est une revue qui a pour vocation de servir d'interface entre les gens qui veulent changer le monde, le rendre plus juste, et puis les chercheurs, les universitaires. À la fois pour que les militants lèvent la tête du guidon, et puis pour que les chercheurs sortent un peu de leur laboratoire et de leur jargon.
Alors, comment est venue l'idée de ces journées sur les inégalités face aux défis écologiques? Et comment est née cette alliance de 15 associations finalement assez différentes?
Quand on écoute le débat public, on a souvent le sentiment que l'écologie, on s'en occupera une fois qu'on aura traité les questions de santé, traité les questions de chômage, de logement. Et donc, ça vient toujours comme la dernière roue du carrosse. Or, les questions écologiques et sociales sont extrêmement liées. Et donc, quand on lutte contre les inégalités, en réalité, c'est une bonne nouvelle pour le social et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Alors, ça va bien de le dire, encore faut-il regarder concrètement ce que ça veut dire, ce qui fait qu'on a pris le parti depuis 2 ans de réunir tous les mois un certain nombre d'associations, Emmaüs, Oxfam, mais aussi le Secours catholique.
Voilà, issus d'univers très différents.
Hein. Voilà, l'union des associations familiales. On ne les attend pas forcément sur les questions d'environnement, mais tous, ils disent la maison commune, la planète qui nous abrite, on ne peut pas faire comme si ça ne nous concernait pas. Et donc, on va se retrousser les manches pour regarder ensemble comment trouver les solutions d'un monde à la fois plus juste et plus respectueux des limites de la planète.
Manon Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de plaidoyer chez Oxfam. Pourquoi Oxfam, une ONG qui lutte traditionnellement contre la pauvreté, s'est lancée dans la lutte contre les inégalités? C'était une évidence pour vous?
Pour Oxfam? C'est devenu une évidence au fur et à mesure des années, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas décemment lutter contre la pauvreté si on ne met pas un frein aux inégalités et qu'au bout d'un moment, on va atteindre une sorte de niveau plancher qui ne nous permettra pas de réduire davantage la pauvreté. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en s'attaquant aux inégalités, on pourra aussi tirer de la pauvreté des centaines de millions de personnes qui aujourd'hui souffrent de la pauvreté. Mais au-delà, on pourra aussi s'attaquer aux causes profondes des injustices qui sont à la source même des questions de pauvreté. Et il y a juste un truc sur lequel je voudrais déjà réagir sur ce que vous avez dit au début, c'est et qui retrace un peu l'historique aussi de la raison pour laquelle Oxfam s'est intéressé aux questions d'inégalité, c'est qu'il y a quelques années, pas si loin que ça, hein, 10, 15, 20 ans. Vous aviez dit en introduction, rien de plus normal que de vouloir lutter contre les inégalités. Mais en fait, c'était pas une évidence, à la fois dans la pensée économique, mais aussi dans le milieu des associations et des ONG, que en fait, lutter contre les inégalités, c'était indispensable pour un monde plus juste et des organisations traditionnellement assez conservatrices, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, ont depuis beaucoup évolué et elles-mêmes reconnaissent que les inégalités ont un impact négatif pour la croissance, un impact négatif pour la réduction de la pauvreté, finalement pour nous tous.
Parce que par avant, pour certains organismes, les plus pauvres étaient finalement responsables de leurs conditions.
Au-delà de ça, il y avait une pensée économique, libérale, c'est la fameuse théorie du ruissellement. Finalement, un niveau d'inégalité, ça peut être souhaitable, voire voire acceptable, si derrière, peut-être, dans quelques années, ça va permettre de sortir quelques personnes de plus de la pauvreté. Mais en attendant, les plus riches s'enrichissent toujours plus et on a une somme finie d'un point de vue environnemental. C'est un peu la même chose d'un point de vue économique. On ne manque pas de richesses aujourd'hui dans le monde. La question est de savoir comment on les divise et comment on les partage.
Et ce sera l'objet de notre débat, bien évidemment. Notre dernier invité, Thierry Kuhn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Emmaüs France. Emmaüs qui a toujours lutté contre l'exclusion, évidemment. Quelle est la place des questions environnementales à Emmaüs? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à rejoindre cette alliance pour repenser les inégalités face aux défis écologiques?
Oui, Emmaüs, une association de lutte contre l'exclusion qui développe des alternatives, qui développe des structures qui vont essayer de lutter contre les exclusions, de donner une place aux personnes à qui la société dit « il n'y a pas de place pour toi, il n'y a pas de boulot pour toi, il n'y a pas de logement pour toi ». Et en même temps, qui va essayer de lutter contre les causes de l'exclusion, donc il va essayer d'analyser, de comprendre, d'interpeller également la société civile et puis les politiques sur la nécessité de changer de modèle. Alors d'abord, il se trouve que Emmaüs, son activité principale, c'est le recyclage. C'est on va collecter du matériel dont les gens ne veulent plus. Ça a démarré dans les années 50 par cette idée. On va aller récupérer des chiffons, de la ferraille, etc. À l'époque, on ne parlait pas encore de la finitude de la planète, justement. Et aujourd'hui, c'est incroyablement d'actualité parce que la réduction des déchets, c'est une question importante d'un point de vue environnement. Deuxième chose, oui, lutter contre les causes de l'exclusion, quand même, les personnes en situation d'exclusion, on leur dit, il n'y a pas d'emploi pour toi. Par contre, ne t'inquiète pas, la croissance va revenir, on va s'enrichir, le pays va s'enrichir. Or, on voit bien le contraire, plus la richesse augmente, en même temps, les inégalités augmentent également. D'autre part, on voit bien que la question de la croissance, aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'elle est encore souhaitable?
Dire qu'il faut attendre que la croissance revienne. Et vous, votre idée, c'est non seulement il faut peut-être pas qu'elle revienne de si vite, parce que les indicateurs économiques sont assez mauvais, mais en plus, c'est peut-être pas souhaitable.
C'est pas souhaitable, et du coup, il va falloir trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est le partage des richesses, le partage des ressources naturelles pour une meilleure redistribution des richesses à tous, et la question environnementale, évidemment, qui nous préoccupe.
Alors, vous dressez un constat, on a d'un côté de plus en plus d'inégalités. Vous écrivez, Jean-Marc Carc, que mesurer financièrement, les inégalités se sont plutôt réduites entre pays, pardon, au cours des dernières décennies, à part en Afrique, mais qu'elles se sont vivement accrues au sein de chaque pays. Les inégalités de revenus, avec des écarts de rémunération de 1 pour 1000 dans certaines multinationales, et puis surtout bien des inégalités de patrimoine qui ont véritablement explosé au niveau international. Quelques individus concentrent désormais près de la moitié de la richesse mondiale.
8 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. C'était le sens d'un rapport qu'on a publié en début d'année.
Mais qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça, justement, alors? Qu'est-ce qu'on se dit après?
On se dit qu'il faut compléter le constat en regardant que, dans le même temps, ces personnes les plus riches, qui accaparent l'essentiel de la richesse, sont aussi celles qui polluent le plus. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, ce sont les 10% les plus riches de la planète qui émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre et donc qui provoquent le réchauffement climatique. Ce qui veut dire qu'il y a évidemment un problème de lutte contre la pauvreté, mais il y a un problème de lutte contre l'ultra-richesse. Ça devient un problème social, ça devient un problème écologique, ça devient aussi un problème sanitaire. Il y a des épidémiologistes, des médecins qui ont étudié les inégalités et leur impact sur les sociétés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que plus une société est inégale, plus on a de problèmes sociaux, de problèmes sanitaires, de personnes en prison, de personnes qui se droguent, de personnes qui sont dépressives, parce que dans une société inégalitaire, il faut vouloir montrer davantage qui on est par rapport aux autres. C'est des sociétés plus violentes, finalement, et où la mobilité sociale est beaucoup moins forte. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut en conclure que les moteurs de la dégradation environnementale et les moteurs des problèmes sociaux sont finalement en grande partie les mêmes. Et c'est à ces moteurs-là qu'on veut s'attaquer pendant ces 2 jours de colloque.
Manon Aubry, sachant que les tensions environnementales renforcent les inégalités sociales, comment sortir de ce cercle vicieux?
Déjà, en comprenant les moteurs et les causes profondes de l'accroissement des inégalités, il y en a plusieurs. D'abord, c'est des systèmes fiscaux injustes qui ne jouent plus leur rôle de redistribution des richesses. En augmentant les impôts les plus indirects, comme les impôts sur la consommation, type la TVA qui touche, de manière plus
donc
que proportionnée.
Donc la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui a augmenté ces dernières années.
Voilà, et donc d'un côté, on a des systèmes fiscaux qui augmentent de plus en plus les taxes qui frappent de manière plus que disproportionnée les ménages les plus pauvres. comme la TVA.
Voilà. Ou la CSG, vous en parliez aussi.
Ou la CSG, qui est un
contribution sociale généralisée.
Qui est un impôt dont le taux est le même, quel que soit le niveau de revenu. C'est-à-dire que vous gagnez 1 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, on va prélever le même pourcentage de revenus. Et donc, indirectement, on va demander un effort plus que proportionné aux plus pauvres. Et donc, on a des systèmes fiscaux qui, non seulement, sont de plus en plus régressifs, mais en plus, auxquels se soustraient de plus en plus les plus riches, les grandes entreprises. Je pense qu'il est inutile de rappeler le succession de scandales d'évasion fiscale, le fait que peu à peu l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les entreprises diminue, voire peut-être va devenir inexistant. On voit une entreprise comme Apple, c'est un taux d'imposition de 0,005%. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est moins de revenus pour les États. C'est donc des États qui doivent soit taxer ailleurs les plus pauvres, soit couper dans les services publics, donc dans les dépenses en santé, en éducation, qui sont des leviers indispensables pour lutter contre les inégalités. Une autre de ces conséquences, c'est aussi au sommet de la pyramide. Si on ne taxe pas les revenus notamment liés à la détention d'actifs financiers dans les grandes entreprises, ce sont des personnes qui, au sommet de cette pyramide, s'enrichissent toujours plus, et donc des inégalités qui s'accroissent. Et donc, pour lutter contre les inégalités, il faut s'attaquer à ces différents moteurs de cette croissance inégale.
Notre patron sur un grand cheval entre par la porte monumentale. Une rumeur parcourt la foule, les investisseurs crient de joie. Les têtes tranchées des concurrents sont exposées sur des pics, tenues par des employés payés au SMIC. Le patron s'est mis sur le côté pour mieux apprécier le défilé. C'est autour des lieutenants juchés sur des éléphants, et voici des secrétaires sur des ordinateurs super puissants qui font vomir des imprimantes, et les segments de marché ferment la marche dans leurs costumes multicolores. C'est le triomphe du capital, notre patron sur un grand cheval se dit qu'il a fait du bon travail. Il nous fait savoir que tous nos sacrifices ont permis que la courbe grandisse.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Thierry Kuhn, vous êtes président d'Emmaüs France. Comment expliquez-vous que certains arguments reviennent constamment? Je pense au soi-disant poids démesuré qu'aurait une taxe carbone sur le budget des classes modestes, qui a permis d'enterrer la taxe avant même qu'elle voie le jour finalement, ou la transition écologique qui ferait perdre des emplois, ou on en parlait tout à l'heure, il faut attendre que la croissance revienne. Ces arguments sont-ils recevables pour vous?
Non, je crois qu'effectivement il faut les combattre et puis les contester, parce qu'on montre bien par nos actions, par l'action des associations, par les initiatives locales, par la mobilisation des citoyens localement, c'est bien au contraire l'inverse. À partir du moment où on dit que la croissance ne va pas revenir et qu'elle n'est même pas souhaitable et qu'elle ne résout pas les questions d'inégalité et qu'elle n'est pas souhaitable pour des questions d'environnement, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir enfin parler de partage et de répartition, d'une autre répartition des richesses. Il y a des opportunités, on parle de revenus universels. Je pense qu'il faut aussi qu'on parle effectivement de revenu maximum.
C'est la question de l'échelle universelle. Donc ça, c'est Benoît Hamon qui en parle énormément dans sa campagne. Vous, c'est l'inverse que vous proposez. C'est un revenu maximum.
Il faut un revenu minimum pour tous, décent, pour que chacun puisse sortir de la pauvreté. Quand même 9 millions de personnes, c'est plus supportable aujourd'hui alors qu'on n'a jamais été aussi riche. Et il faut un revenu maximum. Voilà, par le jeu de la fiscalité voilà. Donc il faut effectivement un revenu maximum. Ensuite, il y a des opportunités. Et encore une fois, on le montre par l'économie circulaire, par le réemploi des déchets. On le montre, on peut créer de l'emploi. La transition écologique est un formidable levier de création d'emplois et d'insertion sociale et professionnelle, en particulier pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, pour les personnes les plus en difficulté, qui n'ont pas forcément de formation, etc. Donc il y a aussi la question de l'inclusion de ces personnes. Et ensuite, c'est aussi, et c'est ce qu'on connaît par nos initiatives, par nos structures de l'économie sociale et solidaire, c'est la relocalisation de l'économie. Et il y a des outils pour ça, ça existe, on les connaît. Les pôles territoriaux de coopération économique, ça existe. C'est la coopération sur un territoire entre les associations, les structures de l'économie sociale et solidaire, les pouvoirs publics
du local.
Et les entreprises pour faire du local et pour créer de l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi.
Mais Jean Mercard, vous l'écrivez, hein, sur le plan mondial, aucun pays ne parvient aujourd'hui à combiner un niveau de développement social et humain satisfaisant avec une empreinte écologique soutenable. Est-ce qu'il faut désespérer de cela?
Je pense qu'il y a plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand on se dit que on atteint objectivement les limites de la planète, qu'il faut aujourd'hui deux planètes pour continuer au rythme de notre consommation effrénée, on peut se dire attention, ça va manquer. Face à ça, il y a deux réflexes possibles. Il y a le réflexe vite, gavons-nous, fermons les frontières, ils sont des murs, en pensant qu'on a un pays isolé et qu'on n'est pas dans une planète commune, ça c'est le réflexe Trump. Ou bien, il y a une autre possibilité, c'est celle que nos associations promeuvent, c'est le vivre bien. C'est que le vivre bien, c'est pas toujours vivre mieux, c'est pas toujours avoir plus, c'est se serrer les coudes, c'est partager, et c'est un formidable défi finalement pour toute notre humanité que de prendre soin de notre planète. C'est hyper enthousiasmant. Et de fait, on s'aperçoit sur le territoire français, mais un peu partout dans le monde, qu'il y a plein d'initiatives qui sont en train de naître. Moi, je suis très optimiste quand je vois l'engouement autour d'un film comme Demain, en France, ce documentaire qui montre que le
Donc
monde qui s'invente...
réalisé par la réalisatrice et actrice
Mélanie Laurent et Cyril Dion. Ce documentaire montre les initiatives qui s'inventent pour de la mobilité douce, pour des circuits courts alimentaires, pour qu'on ne se méfie plus quand on mange de ce qu'on a dans son assiette, mais qu'on sache qui l'a produit et comment il l'a fait. Toutes ces initiatives, elles contribuent finalement à donner du sens, parce qu'on a sans doute moins de biens, mais plus de liens, et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre condition humaine.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Tu veux danser? Ouais, c'est interminable. Pour pas perdre la boussole, tu vends, on te vend et tu es redevable. Africa, enchaîné à fond de cale, même le sol. Pourquoi cette dette, ce poids sur nos têtes, ouais. Le génocide passé, les échanges, la traite. Notre sang, nos ancêtres, n'ont-ils pas trop servi? Aujourd'hui, leurs enfants payent un crédit à vie. Pourquoi cette redevance, nos pays n'ont-ils pas contribué au développement des USA, de l'Europe, donc de la France? Pourquoi et de quel droit divin? On veut notre pain, pourtant on vous laisse le vin. Qu'on connaisse l'esclavagisme comme crime humanitaire et qu'ils payent comme ont payé les fachos d'hier. Parlons d'histoire, parlons donc des bêtises d'hier. Pourquoi nous taire, regarde le monde et son bêtisier. Sauver un milieu des milliers de jeunes qui errent. Annuler la dette et lâcher donc la terre mère. C'est l'histoire de champignons qui vit au profit d'un arbre. Histoire de rapport entre nations faite de pleurs et d'armes. Président africain se tiennent la main. J'aimerais tant qu'on reparte, qu'ils aient été bons ou mauvais. Effacer le passé, donner un lendemain. Un nouveau départ à nos enfants, une nouvelle destinée. Faut plus lâcher, éduquer et avancer. Faire fructifier, pouvoir garder nos intérêts. Les fils d'Afrique en ont marre de trimer, marre de pleurer, de se faire rouler, souiller, exploiter, insulter. Mais je sais, il faut un remboursement dans l'histoire. Pour le monde, de sacrées questions que valent 20 millions de noirs. Et quel est le prix de ces matières premières dérobées, sans lesquelles ne peuvent tourner vos belles Bentley? Notre sang a la même couleur que le vôtre. On a un cœur comme les autres, de qui êtes-vous apôtre? Annulons au moins cette bête date, trouvons la bonne voie. Redonner un droit de vivre, la paix et la foi.
Passy dans C'est pas du vent sur RFI, réduire les inégalités, une exigence écologique et sociale. C'est notre sujet du jour avec nos invités. Jean Mercard, rédacteur en chef de la revue Projet. Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France. Manon Aubry, responsable de plaidoyer chez Oxfam. Et un invité surprise, le philosophe, essayiste et magistrat honoraire à la Cour des comptes, Patrick Vivray.
Il y a une autre idéologie qui est aujourd'hui à l'œuvre quotidiennement, qui est l'idéologie de la crise. Parce qu'en réalité, le mot crise sert d'écran à deux phénomènes qui sont complètement différents. D'un côté, cette grande mutation, cette métamorphose dont on parle. Et là, que ce soit la mutation informationnelle, que ce soit le basculement du monde avec la fin de la domination occidentale, que ce soit l'émergence de la question écologique, tout ça, ça participe de cette mutation, de cette métamorphose. Et puis, d'un autre côté, vous avez ce qu'il faut bien appeler un formidable détournement de richesse par une toute petite partie d'une oligarchie mondiale. L'étude du chef économiste de McKinsey évoquait que sur ce qui transite dans les paradis fiscaux, qui représente entre 26 000 et 32 000 milliards de dollars, donc des sommes absolument considérables, elles sont détenues à 50%, non pas par 1%, non pas par 0,1%, mais par 0,01% de la population mondiale. Et ça, c'est pas de la crise, ça c'est ce qu'on peut appeler de l'escroquerie en bande organisée, et c'est très important d'arrêter de nous laisser intimider par le mot crise qui nous fait croire qu'on est par exemple condamné à des programmes d'austérité. Vous avez un grand banquier, Jean-Michel Nolot, qui était aussi membre de l'autorité de régulation des marchés financiers, qui n'hésite pas à parler de dictature des marchés. C'est pas un alternatif, c'est pas un membre d'attaque, c'est un banquier qui dit ça. Et il faut effectivement non seulement du courage pour les dirigeants politiques, mais il faut une énorme pression citoyenne internationale. Parce que le problème, c'est que les marchés, eux, ils votent tous les jours. Et donc, il nous faut être capable de mettre la barre au même niveau.
Le philosophe Patrick Vivray, au micro d'Anne-Cécile Bras. Je vous voyais prendre des notes pendant cet entretien. Manon Aubry, une réaction.
Ouais, c'est intéressant parce qu'il fait le parallèle entre la menace, entre guillemets, permanente de crise d'un côté et les paradis fiscaux de l'autre. Et moi, j'irais même plus loin dans cette analyse croisée, c'est que les plus puissants, les personnes les plus riches, mais dans une mesure encore plus importante, les grandes entreprises utilisent ce contexte de crise économique, ce prétexte dans une certaine mesure de crise économique pour négocier toujours plus des crédits d'impôt d'un côté. En France, c'est à peu près 80 milliards d'euros en crédits d'impôt, CICE, CIR, pour négocier une baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Même la France, qui n'est pas un paradis fiscal, a baissé son taux d'imposition et va le faire progressivement de 33% à 28%. Et on voit bien donc que le problème, pour moi, il va même au-delà des simples paradis fiscaux. Ce sont ces paradis fiscaux qui tirent tout le monde vers le bas. Et en fait, tous les pays essaient de s'aligner et les entreprises en profitent pour faire leur shopping, pour aller au pays qui leur offre les avantages fiscaux les plus importants et finalement pouvoir maximiser leurs bénéfices et derrière redistribuer le moins possible.
Jean Mercard, pour vous, il est urgent de plafonner les richesses en termes de revenus et de patrimoine. Bigre, c'est pas une mince affaire ça.
Plafonner les richesses, ça veut d'abord dire l'identifier cette richesse. Et l'identifier, ça veut dire mettre fin aux paradis fiscaux là aussi. Parce que les 0,001% dont parlait Patrick Vivray, encore faut-il pouvoir savoir où sont leurs avoirs, derrière quelle société écran, qu'on ait une espèce de cadastre mondial pour pouvoir répertorier les propriétaires véritables de chacune des sociétés écrans, de chacun des trusts. Là-dessus, il y a des mesures très concrètes qui sont aujourd'hui proposées par la Commission européenne, et pourtant les États membres freinent. Ça, c'est des vraies batailles politiques. Ensuite, plafonner les richesses au sein des entreprises, ça aussi c'est possible. Si vous demandez aux Français, par exemple, qu'est-ce qui vous semble un écart légitime de salaire entre les plus hauts et les plus bas salaires? En gros, vous avez une moyenne de 1 à 6, 1 à 10. Généralement, les plus pauvres disent 1 à 6, c'est bien, les plus riches disent 1 à 10.
Mais pas un 1 à 1000 comme dans certaines multinationales.
Mais pas 1 à 1000 ou 1 à 4000 comme on arrive dans certaines multinationales. Pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas une loi qui obligerait les entreprises à avoir ce différentiel maximum de 1 à 10, ou on peut commencer par 1 à 20 ou même à 1 à 50. Vous savez que le PDG de Danone disait il n'y a pas si longtemps que si on divisait par deux les rémunérations des 1% les mieux payés de son entreprise, on pourrait multiplier par deux les rémunérations des 20% les moins bien payés. Pourquoi on ne le fait pas ?
Thierry Kuhn, président d'Emmaüs, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ?
Je crois que Patrick Vivray le disait un petit peu, on est dominé par cette espèce d'idéologie, par cette religion, par ce dogme. C'est ça la crise aujourd'hui, hein. C'est plus une crise de sens et puis une crise de vision d'avenir, de vivre en société ensemble. La liberté d'entreprendre, la concurrence de tous contre tous et la liberté de s'enrichir. On érige en modèle des personnes qui, les entreprises, les personnes qui se sont enrichies, beaucoup l'esprit des États-Unis, hein, voilà, la volonté de s'enrichir, enrichissez-vous et ça fera du bien à tout le monde. Or c'est faux, la question de l'échelle des revenus, elle existe, il y a une loi qui existe là-dessus, c'est la loi de l'économie sociale et solidaire. Dans la loi de l'économie sociale et solidaire, il y a une échelle de richesse, je crois que c'est de 1 à 20, quelque chose comme ça, ce qui est déjà correct, donc c'est possible. L'entreprise peut fonctionner et prendre des initiatives, les gens sont capables de prendre des initiatives, et encore une fois, l'économie sociale et solidaire le montre, qui crée de l'emploi sans que le grand patron s'enrichit indéfiniment.
Manon Aubry, j'en reviens à l'évasion fiscale et finalement à ce double discours, on pourrait dire, du politique. Du coup, que faire? Est-ce qu'il faut se tourner vers le Parlement européen? Est-ce qu'il a le pouvoir de faire changer les choses? Comment faire bouger les lignes?
Alors, mon côté activiste et optimiste va voir quand même le verre à moitié plein. C'est que déjà, on est plusieurs autour de cette table à en parler. Vous n'êtes pas les seuls journalistes à en parler. Et les problèmes d'évasion fiscale sont aujourd'hui sur le devant de la scène politique et médiatique. Ce qui est déjà un énorme pas en avant par rapport à, Jean pourrait témoigner, il y a 10-15 ans, quand il parlait d'évasion fiscale, c'était beaucoup plus difficile de mettre un doigt dessus, à la fois parce qu'on avait moins d'histoires à raconter et moins de chiffres qui sortaient, mais aussi parce qu'il y avait une moindre volonté politique. Donc clairement, aujourd'hui, il est difficile pour un dirigeant politique de ignorer le problème. Le fait est que c'est aujourd'hui compliqué, de fait, du pouvoir qu'ont les grandes entreprises pour freiner toute tentative de réforme. La piste européenne est une des pistes les plus sérieuses. L'Union européenne n'a jamais été aussi active sur le sujet. Plusieurs projets de réforme sont sur la table, notamment cette fameuse mesure de transparence des activités des entreprises dans tous les pays où elles sont présentes. Sauf que là aussi, et c'est là où le bât blesse, c'est que le Parlement européen, qui est plutôt favorable à cette mesure, risque derrière d'être freiné par les États qui, eux, se livrent une guerre, une bataille, mais même une guerre fiscale pour attirer les entreprises multinationales et qui verraient leur intérêt atteint de par cette réforme. Et donc, il faut freiner cette course au moins-disant fiscale, cette course que se livrent les États et davantage de coopération, à commencer par l'échelon européen. Simplement, je pense que la bataille va être encore longue avant que ce soit mis en œuvre.
Vous parliez du Parlement européen. On peut peut-être rappeler que mercredi dernier, le Parlement européen a ratifié l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA, alors que ce texte contredit ouvertement l'accord de Paris sur le climat. À méditer donc. Merci à tous les trois d'être passés dans ce studio. C'est la fin de cette émission qui était réalisée par François Porcheron. Demain, nous parlerons de la proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales, plus connue sous le nom de RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui devrait être adoptée par l'Assemblée nationale mardi 21 février. Alors, cette nouvelle loi permettra-t-elle de mettre fin à l'impunité des multinationales? Protégera-t-elle les citoyens? Sera-t-elle réellement appliquée? Réponse demain dans C'est pas du vent. Bonne journée à tous. À suivre un nouveau journal sur la Radio du Monde.
Appelez-nous, exprimez-vous.